contre toute attente. Salut à tous, avec vous, c'est Christine. Bienvenue à bord d'un contre toute attente, tout en profondeur. Pour commencer, on va s'offrir un petit détour par le gospel folk du sud des États-Unis en compagnie de Darrell Mansfield et une reprise de la chanson du révérend Gary Davis, Great Change Since I've Been Born.
Great change since I've been born. Great change since I've been born. Great change, Lord, since I've been born. Been a great change since I've been born. Things that I used to do, I don't do no more. Things that I used to do, I don't do no more. Things that I used to do, Lord, I don't do no more. Been a great change since I've been born. A new step been made since I've been born. A new step been made since I've been born. A new step been made since I've been born. Been a great change since I've been born.
C'était Darrell Mansfield, Great Change Since I've Been Born, de grands changements depuis que je suis née. C'est vrai que nous vivons dans un monde en plein chamboulement, où tout se transforme, tout est en mouvement, en nous, autour de nous, et avec cette grande transition d'un nouveau millénaire, des questions se posent, des craintes se sont réveillées, on se demande où on en est dans pas mal de choses, et notamment dans le domaine médical. C'est le docteur Josiane Barnéou que nous recevons aujourd'hui. Elle est généraliste, mais elle consacre également une grande partie de son temps aux questions liées à l'éthique. Elle est donc la personne toute choisie pour nous décrire les grandes tendances de la médecine actuelle. Edmond Morel lui a demandé d'en faire une analyse.
Pour pouvoir faire une analyse de ce qui se passe dans le milieu médical, il est important de comprendre par quoi est influencé le milieu médical. Peut-être tout d'abord au niveau social, au niveau des valeurs d'une société, telles que ce qui est cru par les personnes, telles que ce qui est vécu au niveau économique, telles ce qui est vécu au niveau d'une famille. Quelles sont les tendances qui influencent la société? Ces tendances vont se retrouver au niveau médical.
Parce que vous croyez qu'il y a donc des interactions entre ce que l'on croit et ce que l'on fait, et la manière dont on se comporte?
Lorsque l'on aborde le milieu médical et tout spécialement l'approche du patient, ce qui touche le domaine de la maladie, de la souffrance ou de la mort, il est impossible de dissocier ce que ces personnes croient ou quelles sont leurs valeurs fondamentales, simplement parce que ce que nous pourrons éventuellement voir, c'est que la maladie ou l'approche de la mort amène la personne à se poser des questions fondamentales au sujet de l'existence, au sujet du sens de la vie, au sujet du devenir par rapport à la mort.
Alors vous parliez de la pensée qui anime les comportements, mais pensez-vous, notamment sur le plan de la santé, où on a assisté à tout un glissement, notamment de la morale, de l'éthique, est-ce que vous pensez qu'il y a des conséquences à ces modes de vie qui se répercutent aussi dans le domaine de la santé ?
Ce que nous croyons ou les valeurs que nous choisissons pour vivre ont des conséquences au niveau de nos comportements. Et disons que nos comportements vont avoir des influences au niveau de notre santé ou au niveau de la maladie.
Est-ce que vous pensez que certaines maladies révèlent des problèmes de société nouveaux ?
Je vais peut-être prendre un exemple qui est très courant, c'est le problème de la dépression. Nous vivons à l'heure actuelle avec une augmentation du taux de dépression. Et il est indiscutable que ce taux de dépression peut être lié à des facteurs de stress qui sont extrêmement importants, mais aussi très souvent au niveau des personnes, au niveau de crise d'identité, au niveau de crise par rapport à des problèmes de culpabilité.
C'est vrai que la dépression est un de ces signes médicaux des comportements, des stress et de tous ces problèmes nouveaux dans la société. Mais est-ce que ces pathologies nouvelles se limitent-elles à la dépression ?
Un exemple qui a été pris durant ces, je dirais, deux dernières décennies a été le problème du sida. Il semble que beaucoup acceptent comme origine de la maladie les éléments suivants. Le virus du sida aurait existé déjà depuis longtemps, mais serait resté latent pendant de nombreuses années. Et durant les deux dernières décennies, en raison des modifications de comportement des personnes, notamment par exemple au niveau de l'Afrique, du déplacement des personnes vers les cités ou des modifications des comportements sexuels au niveau de nos pays occidentaux, le virus aurait eu l'occasion d'exploser. Et disons que dans certains milieux, ce type d'explication est fortement retenu quant à l'origine de l'épidémie du sida.
Alors on pourrait dire que ce sont des maladies comportementales, si c'était l'explication qu'il fallait retenir. Est-ce qu'il y en a d'autres de maladies de comportement ?
Une des maladies comportementales auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés sont par exemple les désordres alimentaires, soit les problèmes d'anorexie qui touchent à l'heure actuelle un nombre relativement important de jeunes, ou les problèmes de boulimie qui sont juste l'opposé, mais qui sont en fait la traduction d'un mal-être au niveau de la personne.
C'est-à-dire qu'il y a un parallèle que l'on peut faire entre l'étude de la médecine et l'étude du système de pensée ou de celle des croyances en notre temps. Est-ce qu'un petit historique quant à la médecine occidentale ne serait pas intéressant à ce stade des choses ?
Il est impossible de dissocier santé, maladie, mort, sens de la souffrance et de ce qui est cru au niveau des populations ou d'une nation ou d'un pays ou d'une tribu. Si on prend au niveau de l'histoire de la médecine, on peut voir à quel point ce qui était cru ou les valeurs qui étaient acceptées avaient une influence au niveau de la médecine.
Par exemple, dans l'Antiquité, est-ce qu'on peut avoir quelques points de repère ?
Dans l'Antiquité et dans les sociétés primitives, la médecine s'exerçait essentiellement au sein d'une société polythéiste. La maladie et la mort n'étaient pas des phénomènes normaux, c'était des conséquences d'actions qui étaient commises contre les dieux.
Donc il y avait un accent très religieux sur l'interprétation
en fait,
de la maladie.
La maladie était liée à quelque chose que l'on avait fait ou pas fait à l'égard des dieux. Ce qui se retrouve aussi à l'heure actuelle dans certaines sociétés, notamment les sociétés à croyance animiste, où en fait la maladie, la mort, la souffrance sont interprétées avec une notion spirituelle.
Et alors dans ces sociétés-là, le médecin existe peut-être, mais il y a aussi une notion de prêtre, enfin de personnage religieux qui fonctionne au niveau de la santé.
En fait, le prêtre était le médecin ou le médecin était le prêtre. dans ce type de société, puisque vous voyez que le traitement a ce type d'approche. Si l'origine de la maladie est liée à une action qui a été commise contre les dieux, le traitement de la maladie va être lié à quelque chose que l'on va faire en faveur des dieux pour apaiser la colère des dieux.
Alors on pourrait penser que ce type de comportement, notamment en Occident, est complètement abandonné, que ça n'existe plus, que c'est dépassé, mais est-ce que c'est si vrai que cela ?
Non, disons que ce type de comportement n'est pas complètement dépassé en Europe. J'ai travaillé en tant que médecin dans une île qui est une île française, puisqu'il s'agit de la Guadeloupe, et j'étais vraiment étonnée de voir quelle était la part du guérisseur à côté du médecin. Et très souvent, en tant que médecin, mon avis avait moins peut-être d'importance que celui du guérisseur lorsqu'ils étaient opposés.
Oui, mais c'est frappant parce qu'on peut se demander si en métropole, Paris ou ailleurs, c'est très différent. Parce que quand on voit les listes entières de propositions de guérisseurs, de mages, de gens dotés de pouvoirs dits surnaturels qui offrent leurs services dans les journaux, il faut bien qu'il y ait une clientèle aussi pour cela.
Vous m'amenez dans un domaine qui est beaucoup plus complexe de la médecine et de la société. C'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle au niveau de notre société ou nos sociétés occidentales et qui influence la médecine. Nous sommes en train d'assister à un déplacement de valeurs. Nous sommes en train de progressivement de sortir ou de donner moins d'importance à un système de pensée humaniste qui était très matérialiste et qui considérait l'être humain simplement comme un corps. Disons ce type de pensée qui s'est avéré avoir considérablement des lacunes, notamment dans le domaine de l'approche de la médecine, qui est un domaine qui prend en considération l'homme dans sa globalité. Disons un système où l'homme ne vient pas simplement avec un corps malade, mais parfois avec une âme malade, avec des besoins spirituels. Eh bien, ce système humaniste qui tenait simplement compte du corps, de la matière, est un système qui est dépassé. Et actuellement, nous avons une porte ouverte à des pratiques beaucoup plus globales, des pratiques alternatives, où très souvent la notion spirituelle entre en ligne de compte.
Ce qu'il faudrait remarquer, c'est que la médecine occidentale, par tradition, est peut-être plus liée à des fondements grecs, en quelque sorte. Je crois que nos médecins, encore aujourd'hui, prononcent le serment d'Hippocrate. Alors, quelle est la relation avec toute cette espèce d'expérience du monde grec dans la médecine d'aujourd'hui ?
Il est indiscutable que le fondement de notre médecine repose sur la médecine grecque. Et Hippocrate est un des fondateurs de ce type de médecine. Et Hippocrate a eu comme particularité d'essayer de dissocier ce qui était spirituel et scientifique. Et si on étudie la philosophie de la médecine de cette époque, on s'aperçoit que à la fin du XXe siècle, nous avons pratiquement les mêmes bases éthiques que la médecine du temps d'Hippocrate. Le but était de soigner, le but était de respecter la vie, de faire un bon diagnostic. L'approche globale du malade, corps, âme, esprit, était à cette époque-là non respectée.
Mais nous parlons d'Hippocrate, puisque vous êtes médecin chrétienne, on pourrait peut-être faire aussi appel à Jésus pour savoir comment lui, dans son contexte à lui, a influencé peut-être aussi quelque chose dans la médecine ou pas tellement.
Alors c'est intéressant de voir que la médecine qui était pratiquée du temps de Jésus était la médecine grecque. Et comme nous venons juste de le partager, c'était une médecine qui était essentiellement fondée sur une approche matérialiste, c'est-à-dire que le corps était pris en considération, mais le reste de l'être humain était très très peu considéré. Et en fait, c'est intéressant de voir que Jésus-Christ, dans son approche du malade, a une approche globale de la personne. Il va la voir en tant que personne malade, souffrant dans son corps, mais il va aussi introduire la dimension relationnelle en tenant compte des émotions, en tenant compte des besoins émotionnels, des besoins psychologiques de la personne. Mais Jésus-Christ va aussi introduire une nouvelle dimension à l'approche de la médecine, qui est une dimension spirituelle. Et par exemple, dans son approche de certains malades, nous le verrons aussi s'adresser à ce qui pouvait provoquer une profonde culpabilité chez la personne et être à l'origine de problèmes. et pardonner cette personne.
D'une certaine façon, c'était avant-gardiste pour le temps, en tout cas c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui est aussi très moderne aujourd'hui.
C'est une médecine qui est extrêmement moderne si on la considère aujourd'hui. Et par exemple, l'attitude de Jésus-Christ par rapport aux lépreux est une attitude qui aujourd'hui a beaucoup à nous dire dans le monde médical, notamment lorsqu'on pense au problème du sida. Lorsque on pense à la lèpre du temps de Jésus, c'était une maladie qui excluait les personnes. Et si on se souvient de ce qui s'est passé au début de l'épidémie du sida, très souvent le malade sidéen était quelqu'un qui était exclu. Et si on revient à l'exemple de Jésus, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours, je dirais, interpellée en tant que médecin. On voit que Jésus a touché le lépreux. Et disons que ce n'était pas simplement un toucher, on pourrait penser au niveau émotionnel, disons établir une communication avec la personne, mais c'était quelque chose de réellement physique. Et le lépreux de l'époque était quelqu'un qui était intouchable.
Qui était tellement physique que ça opérait, en l'occurrence, la guérison même du lépreux. Donc c'était un amour où transitait un pouvoir de renouveau et de guérison.
Tout à fait.
Jésus a eu donc une approche médicale globale de la personne, une approche caractérisée par un intérêt profond pour tout ce qui constitue un être humain. Voici le groupe Facette, tout en douceur et en expression, pour parler de l'amour de Jésus.
Laissez-moi vous parler de celui qui a changé ma vie, de celui qui fait jaillir en moi des torrents infinis.
Nous rejoignons maintenant le docteur Josiane Barnéou qui aborde une question qui lui a été posée un jour. Quelle est la différence entre un bon médecin et un médecin chrétien ?
Tout d'abord, j'aimerais dire qu'un médecin chrétien doit être un bon médecin, c'est-à-dire qu'au niveau technique, il doit être compétent. Mais je dirais qu'une des possibilités qu'a un médecin chrétien, c'est d'aborder la notion de pardon qui peut être source de guérison. Je crois que tout être humain a une conscience, que l'on soit chrétien, que l'on ne soit pas chrétien, qu'on se définisse comme athée, qu'on se définisse, disons, comme on veut se définir, chacun d'entre nous a une conscience. Et à un moment donné ou à un autre, nous faisons des choses qui transgressent notre conscience. Et ces choses où nous transgressons notre conscience amènent un sentiment de culpabilité. Et la culpabilité peut nous rendre malades. Et personnellement, je crois que le seul traitement réel à la culpabilité est le pardon. Et disons que le réel pardon est en Jésus-Christ.
Mais Vous avez noté que Jésus donc s'occupait et s'occupe encore probablement de l'aspect physique, certainement, mais aussi spirituel et émotionnel. Donc c'est une approche globale de son intérêt pour les gens. La pensée humaniste aujourd'hui n'est plus tellement à ce niveau-là, se situe pas tellement à ce niveau-là.
Non, la pensée humaniste considère que Dieu n'existe pas, disons que c'est un postulat de départ. Et le deuxième postulat, c'est que l'homme a beaucoup de capacités et que par ses propres capacités, l'homme peut être la solution à tous les problèmes qu'il rencontre. Et disons que personnellement, à un moment donné de ma vie, c'est cela que j'ai cru comprendre, que j'ai cru dans ma propre vie. Et probablement que ça a été un des éléments qui m'a amené à choisir le métier de médecin, pensant que par mes capacités, je pouvais être une partie de la solution au problème.
Donc alors que vous n'étiez pas chrétienne à l'époque,
c'est ça ? Je n'étais pas chrétienne à l'époque, mais disons que c'était un petit peu ma manière de croire où c'était là où j'avais placé mes valeurs. Faire quelque chose de bon pour l'humanité en espérant, dans une certaine mesure, changer aussi l'humanité pour avoir un monde meilleur.
Mais c'est un défi considérable et merveilleux. Et vous avez vu un jour les limites à ce genre de démarche ?
Tout à fait. Disons que à ce genre de démarche, vous vous apercevez de deux limites. La première limite est à votre niveau, parce que vous vous rendez compte que même si vous voulez faire le bien, vous ne faites pas toujours le bien que vous aimeriez faire et qu'en fait vous faites le mal que vous n'aimeriez pas faire. Et d'un autre côté, vous vous rendez compte que face à vous, les problèmes sont tellement immenses que vous n'arrivez pas à les résoudre, vous n'avez pas la capacité de les résoudre et que pour les résoudre, parfois, il faudrait que les personnes changent et vous vous sentez incapable d'aider souvent les personnes à changer.
Mais sur une question toute simple comme le pardon, un médecin face à un patient culpabilisé, est-ce qu'il a le pouvoir, lui, de lui pardonner ou de lui donner le pardon ?
Je crois qu'un médecin peut être la personne qui va introduire son patient auprès du pardon de Dieu. Et je crois que la véritable compréhension du pardon passe par la compréhension du pardon de Dieu. Je crois que nous pouvons réellement pardonner à quelqu'un, accepter le pardon de quelqu'un, dans la mesure où nous avons compris la manière dont Dieu nous pardonne. Je crois qu'en tant qu'être humain, nous pouvons utiliser le mot pardon, nous pouvons l'exprimer. Mais disons que la question, peut-être que je n'ai pas encore résolue, c'est jusqu'à quel point nous pouvons réellement rentrer dans la liberté du pardon que Dieu réellement accorde et que nous pouvons accorder lorsque nous connaissons le pardon de Dieu à quelqu'un d'autre.
Lorsque nous avons une grippe, on peut trouver des médicaments qui soignent la grippe. Mais quand c'est le pardon, il n'existe pas sous forme de pilule. Donc c'est quelque chose qui fait appel à d'autres enjeux, à d'autres dimensions, qui n'est pas forcément dans l'arsenal médical.
Tout à fait. Et c'est là où je dirais qu'il se situe la différence entre un bon médecin et un bon médecin chrétien. La personne qui m'avait posé cette question au sujet de la différence, je lui expliquais la possibilité qu'un médecin chrétien avait d'annoncer la notion de pardon. Et sa réponse a été « Mais est-ce que c'est un traitement ?» Et disons que personnellement, je pense que le pardon est un traitement. En tant que médecin, il m'arrive et je prescris des anxiolytiques, je prescris des somnifères. Je crois que quelqu'un qui est dans une phase de dépression a besoin de ce type de médicaments au moins pour un moment. Mais disons que souvent, la véritable racine du problème...
Pour traiter
la racine du problème, souvent, il y a besoin d'arriver à une place de recevoir le pardon de Dieu ou donner le pardon.
Être dans une situation réconciliée avec soi-même, avec son prochain et avec Dieu, c'est vrai que c'est quelque chose qui change pas mal les conditions de la vie, si c'est perçu et reçu.
Je pense que la réconciliation est un mot qui rentre dans la définition chrétienne de la santé.
Alors justement, on s'aperçoit que la pensée humaniste, telle qu'on l'a connue, de tout moins dans ces dernières décennies, il semble qu'elle ne corresponde pas tout à fait à ce que les gens attendent, finalement. Ils attendent plus que simplement une pilule pour quelque chose qui devrait faire des miracles qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Ils attendent d'être aussi traités et qu'on s'intéresse à leur personne.
Disons que la pensée humaniste, au niveau de la médecine, a amené beaucoup d'espérance, dans le sens où, comme on l'a vu tout à fait au départ, sous-jacent à la pensée humaniste, il y avait cet espoir de changer le monde et de venir à bout d'une multitude de problèmes, et notamment au niveau médical, et même... Peut-être que c'est une utopie d'éradiquer la mort. La réalité, c'est qu'à la fin de ce XXe siècle, qui, dans la pensée des gens, a été lié à beaucoup d'espérance, on s'aperçoit qu'en fait, on meurt toujours. on est toujours confronté à des maladies et on est même en train de découvrir de nouvelles maladies. Donc, la médecine a amené à une certaine désatisfaction, un certain désappointement.
Déception.
Et déception.
On s'aperçoit que ce qu'on croyait comme la limite du bonheur enfin trouvé et absolu, ben, elle est toujours plus loin avec de nouveaux problèmes qui abondent. Il y a une espèce de rejet de l'espérance vers l'inconnu qui n'est pas atteignable.
Disons qu'on a essayé de résoudre des problèmes simplement avec une approche matérialiste. La réalité des choses, c'est que l'homme n'est pas simplement matière. Et je crois que c'est un des autres domaines de déception au niveau de la médecine. C'est que la personne qui est malade attend plus de son médecin simplement une ordonnance avec des comprimés. Nous vivons dans une société, et nous en avons parlé tout à fait au départ, où les valeurs spirituelles sont en train, disons, de se désagréger. Et disons que dans la société, très souvent, auparavant, les personnes allaient vers un prêtre et il y avait ce qu'on appelait la confession, qui, dans une certaine mesure, était libératrice d'une certaine culpabilité. À l'heure actuelle, disons que les gens vivent avec passablement de culpabilité. Et lorsqu'on va chez le médecin, eh bien, c'est peut-être la personne vers laquelle on espère pouvoir parler, ouvrir son cœur. En tout cas, peut-être pas de manière systématique, mais je crois que dans le cœur de beaucoup de personnes, le médecin est aussi vu comme celui qui pourrait les aider au niveau de cette libération de culpabilité. Dans une approche humaniste qui est seulement matérialiste, cette dimension-là n'est pas considérée.
En écho aux paroles de Josiane Barnéo, voici « Tel que je suis, Seigneur », interprété par François Raymond.
Tu m'as sauvé, je viens t'offrir.